Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues, donc, c'est l'amitié. Ce sont les amis. Hier, l'amitié se superposait au voisinage qui se superposait à la lutte. Demain, mercredi, nous nous demanderons ce que les réseaux sociaux offrent comme nouvelle surface de projection à l'amitié. Jeudi, de jeunes musiciens nous raconteront comment, à l'image ou non de leurs aînés, ils font de la musique entre amis, avant de chercher vendredi les personnages d'amis sur les écrans de cinéma. Aujourd'hui, les amis d'enfance sont une communauté de secrets qui ne fait pas toujours bon révéler. Ça commence. Paris, le 29 juin 1966. Cher René Char, dans un moment plutôt sombre, il y a eu votre amitié, témoignée par les lettres que vous avez bien voulu adresser aux professeurs Delay et Denicker. À partir de ce moment, les choses, infléchies par votre voix de poète, ont recommencé à s'ouvrir, à m'acheminer vers une porte, vers une nouvelle et ancienne confiance. J'espère bien vous voir en automne, à Paris, et de vous remercier de vive voix. Bien cordialement, Paul Celan. À cette époque, Celan et Char s'écrivent depuis 12 ans. Cet émouvant échange vient d'être édité par Bertrand Badiou aux éditions Gallimard et on peut y lire une autre correspondance dans ce livre, celle superbe que Char entretient aussi avec Gisèle Celan avant et après la mort de Paul. On y trouve enfin d'autres documents, sans date, sans rien, comme cette dédicace des matinaux par Char à son ami Celan, le vrai secours vient dans le vague. Il est 14h passé de 2 minutes, bienvenue à vous dans les Nouvelles Vagues. Et ces nouvelles vagues naissent parfois d'inventions techniques, de l'usage de machines ou d'outils. C'est en tout cas ce que l'auteur Olivier Cadio nous a répondu lorsque nous lui avons demandé de parler de 5 moments de bascule dans son parcours. Aujourd'hui, il évoque le cutter. Pas le cutter de Burroughs, mais un cutter de poète quand même, qui lui permet d'aller chercher des petits trésors cachés dans des endroits où il ne devait pas être. Atelier découpage vers 14h50. Deuxième moment d'une semaine au centre de laquelle se tiennent les amis. Hier, même si la pudeur n'en faisait pas la chose la plus facile à mettre en mots, l'amitié traversait tous les récits de lutte, de regroupement, de chantier, d'occupation, reportés dans le livre Constellation, trajectoire révolutionnaire du jeune 21e siècle, publié aux éditions de l'Éclat. Aujourd'hui, l'amitié à la vie, à la mort, n'est pas qu'une formule. 10 ans après l'avoir quitté, Romain revient dans le village de son enfance et ne peut échapper aux années Cambrousse, où le gang dévalait les petites routes sur bande originale de Motorhead et AC/DC, attendant que quelque chose se passe, que jeunesse se passe, que l'amour ou que la vie prennent une forme aimable. Au centre de la bande de Romain, qui comprend son petit frère Chris, il y a Julie. Elle est au centre parce qu'en secret ou non, elle est convoitée. Un été, tout cela glisse et Romain part, avec au ventre un secret plus qu'inconfortable. Votre roman rural noir, Benoît Mainville, raconte des destins scellés par la violence, par l'ennui, mais aussi par un territoire. Il paraît dans la série noire chez Gallimard. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de l'invitation.
Hier, si ça n'a pas été la chose la plus simple, en même temps c'était peut-être la chose la plus émouvante d'essayer de décrire l'amitié. Comment est-ce que vous le feriez, vous ?
L'amitié, c'est quelque chose qui est pour moi indissociable de ma personne, de qui je suis. Déjà parce que je le rapproche énormément du fraternité, du liberté, égalité, fraternité, amitié. C'est vraiment très proche pour moi. Mon premier ami, c'est mon frère. J'ai un frangin, on est comme les deux doigts de la main. Et déjà, les premières traces d'amitié sont venues très tôt. Grandir ensemble, avancer ensemble. Et puis après, est venu se greffer tout un tas de potes. Donc, Rural Noir m'a permis, au travers d'une fiction, de raconter, de rendre hommage et de raconter cette vision de l'amitié telle que moi je m'en suis nourri depuis que je suis gamin dans le buddy movie américain, français, la littérature.
Le buddy movie, donc la traduction française, ce serait quoi, le film de pote ?
Ce film de pote, c'est à chaque fois qu'on met un type avec un flic hors du commun. Je suis la génération VHS, vidéo future, donc que ce soit dans la Cambrousse ou à Paris, on se biberonnait à la VHS et moi de mon côté, moi mon frangin, mais moi de mon côté au bouquin. Et je recherchais le cœur adolescent qui battait en même temps dans le mien et que je sentais vivre ailleurs, et un espèce de rame d'âme comme ça.
Et plutôt sur la forme de duo, vous parlez de flics qui s'assemblent dans certains films.
Dans le buddy movie, oui. Là, ça peut être aussi De Funès et Bourville. C'est après la bande avec le Splendide ou tous les films de Patrice Lecomte, et puis la bande à Rochefort et à Victor Lanoux pour Yves Robert. Mais c'est de voir à l'écran ou en littérature des choses qu'on ressentait. Alors, surtout pour tout ce qu'avait attrait à l'adolescence. Par exemple, moi, quand j'ai lu ça de Stephen King, ou que j'ai vu Stand By Me, le film de Rob Reiner, pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être pillé d'un côté, flatté de l'autre, et puis de me dire, bon, bah, c'est que ça doit être universel alors. On doit tous être quelque part comme ça, dans la cambrousse ou en ville, à vivre le même été circulaire, expression que je dois à un ami auteur, justement, Nicolas Mathieu, à qui je l'emprunte, qui définit très bien le cœur de Rural Noir.
Quand c'est marrant que vous rapprochiez évidemment la fraternité de l'amitié. Hier, on a commencé par les dissocier. Justement, on a commencé par dire que c'était très différent parce qu'il n'y avait pas dans la fraternité, au sens sanguin du terme, de possibilité de choisir, d'élection. Que l'amitié, c'était choisir des êtres, et que la fraternité, c'était se trouver dans une famille à côté d'êtres.
Oui, et c'est faire face à l'adversité aussi. Là, on choisit pas sa famille, mais c'est vrai que moi, avec mon frangin, on s'est vite révélé comme étant indissociables l'un de l'autre. Mon frangin, il a 2 ans et demi de moins que moi. Mais à part une ou deux exceptions, on a eu la même bande de potes. Que ce soit cette bande de potes qu'on avait à chaque fois qu'on descendait dans la Nièvre. Je ne suis pas né là-bas, mais j'ai passé tous mes étés, toutes mes petites vacances, de toute ma grande vie d'enfant jusqu'à aujourd'hui, à aller là-bas, en fait. Et ou que ce soit dans notre banlieue. On avait vraiment la même bande de potes. Donc en fait, on a avancé ensemble avec les mêmes valeurs, avec les mêmes, tout en étant chacun totalement différent. Et du coup, c'est vrai que pour créer cette bande de potes de Rural Noir, j'ai voulu rendre hommage, mais j'ai pas voulu simplement faire un copier-coller de ce que j'ai pu vivre. J'ai fait une espèce de tambouille où chacun pourra se reconnaître. C'est pour moi assez intime d'avoir mis ça sur papier. Avant même d'être un roman noir, j'ai voulu écrire un roman de pote, un roman sur l'amitié de ces années où tout est possible, tout est fatal, tout prend des proportions hallucinantes, où on est toujours dans l'attente du prochain grand truc qui est censé jalonner notre vie, où on est encore innocent. C'est vrai que quand on passe cette période-là, la vie peut nous mettre des fois aussi quelques claques à cette époque-là, mais quand moi j'ai eu la chance de la vivre de façon assez buissonnière, et comme je l'écris dans Rural Noir, sur tous les côtés positifs, on a l'impression d'être dans une espèce de bulle qui appartient qu'à nous, un monde qu'on portera en nous et qu'on va essayer de transmettre aussi. Il y a la transmission, moi, c'est une des valeurs que je défends le plus et que j'aime.
Le fait que se mêlent en effet la fraternité et l'amitié, vous diriez que dans le fait de partager, que ce soit dans Rural Noir ou manifestement dans votre propre vie, une bande de copains avec votre frère, vous diriez que l'amitié vient comme augmenter la fraternité. C'est comme si ça faisait un truc
ça a décuplé, parce que on était aussi, c'est vrai, du coup, au centre. On était un peu les deux frangins, que ce soit tous les regroupements de potes se faisaient aussi chez nous. Après, c'est un peu particulier parce que l'amitié a pris un sens très fort en fait dans cette cambrousse. Déjà parce que moi j'ai eu un parcours scolaire un peu difficile, donc j'avais vraiment l'impression de vivre entre deux en attendant les moments où j'allais débarquer dans ma Nièvre. C'était là où je m'épanouissais avec mon meilleur ami, qui était aussi un banlieusard dont la famille était originaire du coin. On se retrouvait à chaque fois, chaque départ était un déchirement, mais du coup on se retrouvait là-bas, c'était fort. Et puis on a en fait rencontré à 900 mètres de là, dans l'autre lieu dit, qui était à l'époque le bout du monde, hein, parce que voilà, nous c'était ma maison. Et puis après, en grandissant, on a pris les vélos puis les mobylettes, mais on a découvert en fait une famille d'accueil de la DAS qui accueillait des enfants, des générations d'enfants, et on a grandi avec eux. Et moi, ça m'a nourri l'âme, le cœur, la rage aussi, une vision de ce que peut être aussi l'adolescence quand elle n'est pas la mienne, d'autres profils qui me donne un territoire très fertile aussi pour rendre hommage, puis pour écrire des
histoires. Et pour faire des personnages, ouais.
Et pour créer des personnages, façonner des personnages à partir de tout ça, les plonger dans de la fiction. Et du coup, venir aussi se greffer sur un territoire en friche, déserté, ou encore à l'heure actuelle, quand moi je descends, que je vais faire mes courses, je vois les mêmes jeunes sur leur banc, ensemble, à fumer cigarette, à boire quelques bières, sans que ce soit forcément méchant, mais à attendre, à créer, à faire passer le temps, à être ensemble. Et c'est marrant, parce que le coin que je décris dans Rural Noir, où on allait se baigner quand on est des gamins, je peux y aller chaque année. Il y a d'autres mômes qui viennent, il y a d'autres ados, il y a les mêmes bruits des mobilettes.
Justement, vous parlez de l'importance de la transmission, et on sent bien aussi de la répétition des choses, des formats, des formes que prennent l'amitié ou l'attente.
Ouais.
Est-ce que vous diriez qu'on apprend à être amis? Est-ce que vous diriez que, par exemple, dans les aînés, que ce soit, si je prends les personnages de ce livre-là, des gens même que vous rencontrez, des paysans ou des adultes, est-ce que la manière dont eux voient l'amitié est quelque chose qui est une forme d'apprentissage de l'amitié pour les plus jeunes?
Oui, surtout qu'ils... on est quand même à l'époque. Moi aussi, même si les ados que je décris, c'est ceux avec qui j'ai grandi, donc c'est ceux qui ont grandi aussi avec Internet, les VHS et compagnie. Donc on n'est plus chez Gabin, mais c'est vrai que du coup la génération d'avant qui nous paraissait nous comme assez impressionnante, une terre de taiseux aussi. C'est des gens qui parlent, qui disent pas beaucoup. Mon père, de son vivant, quand il allait faire du bois avec le voisin d'en face, son meilleur ami, il pouvait passer une après-midi sans en dire un mot, et ils avaient passé le meilleur moment du monde. Chose qui pour moi et mon frère était totalement inconcevable. On est très bavards. Nous, il fallait qu'on nourrisse les espaces, qu'on nourrisse les moments, qu'on fasse le kéké auprès des filles. Et c'était certainement pas en restant un peu comme Clint Eastwood, dans une posture brumeuse ou ténébreuse, qu'on allait y arriver. Il fallait qu'on aille se battre. Hein. On était quand même la génération des nuques longues et compagnie, donc c'était aussi pas très facile d'aller chercher le sexe faible.
Au tapping de Thunderstruck, d'AC/DC chatouille nos entrailles et monte en nous. Ce soir, on est les rois. Cette nuit d'été est à nous. On se rabâche cet hymne depuis des semaines et à chaque fois, c'est la plus grande découverte de l'histoire de la musique. Notre vieille grange nous protège de l'orage de fin du monde qui rôde. On transpire la joie, le rock'n'roll et l'amitié. On est plus grand que King Kong, plus heureux qu'une colonie de milliardaires. Plus sauvage qu'une horde hors la loi. Les vacances sont là, attendues avec plus de ferveur que le premier baiser que je traque depuis peu. Les vacances dans notre chez-nous, un été à parcourir notre paradis tout vert, un quotidien à réinventer, la vraie joie d'exister et de grandir ensemble. Nous quatre. Je les regarde, mes potes, si fiers de les connaître. On n'entend même pas l'eau qui dévale des nuages, ni le tonnerre qu'on aura oublié demain matin. Trop occupés à rire, accompagnés de nos quelques trésors pour honorer l'été. Deux canettes de bière, piquées à mon père. Une clope aussi. Merde. Presque 14 ans. Et de la bouffe, on a pillé nos frigos de tout ce qui est gras et peut se manger entre deux tranches de pain. Et cette musique envoûtante, quand ce ne sera plus AC/DC, il y aura bien Black Sabbath ou Led Zepp pour assurer le coup. Je les regarde, mes potes. Chris, mon petit frère, les genoux esquintés par sa dernière gamelle à vélo, imite si mal Angus Young qu'on se pissera bientôt dessus. Il se dandine et Vlad la tire vers lui en passant son bras autour de son cou. Vlad, c'est mon meilleur pote. Il a déjà ouvert la deuxième bière. Il se marre, n'arrête pas de triturer sa boucle d'oreille. Julie l'a percé à l'épingle de nourrice. Moi, je suis avec eux. C'est ça, la vie en grand. J'adore les regarder. Des fois, je passerai des heures à observer le caractère de cochon de mon petit frère se frotter à l'ironie cinglante de Vlad. On se marre comme des loutres dans la chaleur étouffante de notre repère. Nos vieux sont loin. On a eu notre habituel couvre-feu, mais on l'ignore. Tout notre QG vibre au son de l'alchimie de notre amitié et de cette musique. Benoît Marguil, on vient d'entendre l'ouverture, ça s'appelle même le prologue de votre roman Rural Noir, publié aux éditions Gallimard dans la série Noire. Et c'est vraiment ce roman, il s'ouvre sur la description de la bande d'amis et sur le regard que Romain porte sur eux et la fierté qu'il a de faire partie de cette bande. Et la page se termine par l'alchimie musicale. Elle commence par l'introduction du morceau qu'on a dans nos oreilles et elle se termine par l'idée d'une alchimie musicale. Est-ce que vous diriez que l'amitié de ceux-là est aussi une amitié qui se forge dans une sorte de bande originale, vraiment au sens musical du terme ?
Oh, ouais, je pense que l'amitié, c'est une espèce de partition où chacun joue son rôle et où ça donne une espèce de symphonie unique de où chacun a sa voix, chacun a son mot à dire. Alors des fois l'amitié peut être féroce aussi, il y a aussi des moments où on va se bouffer le nez pour rien du tout, où on va se déchirer, se séparer pour mieux se retrouver. Mais la musique en fait est totalement indissociable surtout de cette période en plus. Cette période de début 90, bah, cette scène elle a été vécue des milliers de fois tous ces étés-là en fait. C'est l'été 92, l'été magnifique, faire 40 bornes pour aller voir Terminator 2, rentrer, faire une boum dans une grange en écoutant ce live à Donington d'ACDC qu'un de nos potes avait acheté en cassette, et on se dit qu'il y a rien de mieux au monde. On est libre, c'est l'été, on est affranchi de tout, on a chacun, je dirais, un rôle. C'est vrai que on se retrouve souvent dans des archétypes, dans des films ou des livres de potes comme ça, avec le petit gros, le sportif, le film Breakfast Club, il manque ça, de John Hughes, il manque ça, tous les archétypes qui forment un tout, en fait, parce que la jeunesse, elle est là. Chacun a besoin de se bâtir, de se construire, donc on va vers ce qui a déjà existé. Et puis, on a ce qu'on montre, on a ce qu'on, surtout, on peut pas montrer aussi, parce qu'on le garde en nous. On a ce qu'on aimerait montrer un peu plus aussi à certains de la bande. Et puis, il y a les rapports de force qui se tissent. C'est comme un riff de guitare. Moi, j'ai découvert cette musique-là, le rock, le métal, à peu près dans ces périodes-là.
Et ça. Comment ça circulait la musique dans cette bande d'amis à la fois fictive et réelle?
Après, c'est vrai qu'on, je vais pas mentir, on n'écoutait pas que ACDC, hein. On est aussi la génération où les filles, elles écoutaient les bandes originales de Grease, New Kid on the Block. On n'était pas les derniers aussi pour mettre de l'Eurodance vilaine dans nos booms. Mais voilà, dès qu'on avait une énergie, en fait, qui était capable de passer de l'un pour arriver à l'autre, c'était comme un courant, comme quand on se baladait, qu'il y en avait un qui avait la super idée d'agripper la clôture électrique et de dire, venez me donner la main. Et que le courant passait entre nous. C'est pas du courant méchant, mais c'est cette idée de passer le courant entre nous, de ne faire qu'un, en fait. Nous, on était les banlieusards, en fait, qui débarquaient là-bas et on avait les yeux grands ouverts. On retrouvait nos potes qui, eux, étaient déjà, pour certains, plus charpentés. Ils aidaient leurs parents au champ. Voilà, les filles nous paraissaient beaucoup plus mûres et matures que...
C'est l'été, ça.
Ça doit être ça, oui. Mais c'est vrai que du coup, voilà, peut-être ce qu'ils mangeaient à la cantine était différent, mais nous, on passait plutôt pour des palos, un peu. Et puis, les filles étaient un petit peu plus plantureuses, un petit peu plus en avance, aussi un peu plus mûres. Donc nous, on avait ce côté, on était bien contents aussi quand on retrouvait nos copines de banlieue ou Paris. Ça faisait un espèce de mélange. Et on s'affranchissait de tout ça, en fait. Il n'y avait plus d'origine dans notre bande. Par contre, ce qu'on n'aimait pas, c'est quand d'autres bandes venaient. Même moi, je me surprenais à appeler d'autres bandes les Parisiens. On avait cette idée de... On est chez nous, et c'est vrai que on aimait partager. Dès qu'il y en avait un qui trouvait un truc, une BD, un morceau de musique nouveau, quand Rage Against the Machine est arrivé... ça a béni tous nos après-midi pendant des semaines et des semaines.
Ça clivait aussi quand vous n'étiez pas d'accord, quand vous n'aviez pas les mêmes goûts
musicaux.
Ah oui,
parce qu'en plus on est vraiment de cette génération. On pouvait aussi bien passer du rap à Top DJ, du métal. On découvrait en fait. Ce qu'on n'aimait pas, c'était les chansons à papa et maman. Ça, on les a redécouvert plus tard. On avait besoin de se découvrir nous, notre histoire.
Peut-être mon meilleur ami, il s'appelle Michel Denoix, il vit encore. Il est chef de service à Orsay, c'est quasiment un savant. Et on a eu 15 ans ensemble, on a eu 16 ans, on a eu 18 ans, 20 ans, évidemment. Mais alors tout ça, ça marque une période de révolte extrêmement violente. La période où on a rompu avec nos familles, la période où on est devenu communiste, la période où j'ai fait la guerre d'Algérie, et lui il l'a faite un peu après, la période où on réglait nos comptes avec la société capitaliste, comme on disait, d'une manière extrêmement violente. On était au scout ensemble, on a brisé ensemble tous les vitraux et toutes les statues d'une chapelle, on a failli être poursuivi en justice, enfin c'était une catastrophe pour nos familles. On était devenus des sortes de révoltés, de voyous, d'une violence inouïe. Et c'est quelqu'un en même temps avec qui on a découvert ensemble Sartre, Camus. Bon, ce sont des noms qui font un peu sourire maintenant, mais enfin, c'est village. Je veux dire, on a eu notre formation intellectuelle ensemble, à discuter des heures. Ah, vous savez, cette si belle chose entre amis quand on a 18 ans. Moi, j'habitais rue Paulbert, lui, il habitait boulevard Voltaire. Alors le soir, on se quittait, il venait m'accompagner chez moi, je le raccompagnais chez lui, puis il revenait encore chez moi, puis je le raccompagnais encore chez lui. On peut pas se quitter, hein, ça c'est très, très très net.
Dans les premiers amours.
Oui, c'est très très révélateur des amitiés adolescentes. Parce qu'on avait toujours quelque chose à rajouter, un point de découverte sur la société, quelqu'un de nouveau à haïr...
Quelqu'un de nouveau à haïr, c'est le poète Franck Venaille dans une archive radiophonique diffusée en 1998 sur France Culture dans les Nuits Magnétiques. Franck Venaille qui parle de ce meilleur ami. On a eu 15 ans, on a eu 16 ans, on a eu 18 ans ensemble aussi, ce temps qui passe. Alors évidemment, Romain, dans votre roman Rural Noir, revient après une certaine période. Donc il y a vraiment ces allers-retours entre le passé et le présent, le présent de l'intrigue. Mais il y a aussi ces espaces-temps, c'est-à-dire qu'on sent bien que les fameux étés, ces fameux étés circulaires, ils sont à chaque fois séparés d'un an, ou un peu moins s'ils reviennent entre les vacances. Que sont ces amitiés-là qui sont des amitiés où toujours la retrouvaille est centrale en fait?
Je pense que c'est là aussi où parfois, malheureusement, dans le cadre romain, on fait intervenir la jalousie, le manque, le besoin, l'exclusivité en fait, le besoin d'être exclusif. On est dans l'amour, hein, on est vraiment dans une forme d'amitié. Romain, il a un côté compulsif comme ça, où justement, pour rebondir sur la dernière phrase, le personnage de Cédric, quand il arrive, il va jouer l'électron libre. Donc Cédric, c'est un petit blanc turbulent, qui a moins de repères que la bande de potes qu'on découvre, et qui va jouer le rôle du trou noir, en fait. Il va attirer à lui Vlad, l'oiseau libre, le free bird de la bande, celui qu'on dit déjà que de toute façon il terminera mal, donc ce sera un qu'il essaie de faire autre chose, pourquoi essayer de lutter. Et du coup, Romain, il y a cette espèce de rage en lui d'essayer de dire non, reste avec nous, reste avec moi. Et en pratiquant l'ellipse comme ça, entre les étés qu'on voit pas et puis quand il revient, on sent que cette amitié, elle a changé. Rester fidèle en amitié, c'est très dur aussi. Je pense qu'on a tous des amitiés qu'on aurait aimé creuser ou voir entretenir, pouvoir et puis le temps fait que, donc là eux c'est, le temps est avec eux parce que finalement ils vivent toujours la même chose dans leur campagne, mais on peut pas empêcher les gens de devenir ce qu'ils ont aussi envie de devenir, d'essayer de l'expérience, l'émancipation. Vlad, il a ce besoin. Est-ce qu'il est plus faible ou plus fort? Est-ce qu'il n'a pas un côté autodestructeur? Moi, ce personnage, je l'ai un peu, voilà. C'est un peu le fantasme de mes pires craintes. Parce que c'est vrai qu'à des époques, je voyais moins mon meilleur ami, je voyais moins certains potes. Même maintenant, aujourd'hui, le fait de la vie est faite que. Donc, c'est d'essayer de se trouver aussi. Romain, c'est un peu aussi sa façon de se trouver des échappatoires, peut-être à lui-même.
De fréquenter ces gens-là?
Ouais, et puis de voir de porter l'accusation sur le fait, ouais, Vlad devient comme ça à cause de l'autre, et pas à cause de moi aussi.
Vous décrivez Cédric, un personnage qui apparaît de manière assez magistrale, puisqu'il apparaît en train de tirer sur des vaches dans un champ où la bande arrive, le découvre et l'interpelle en disant « qu'est-ce que tu fais là ?» Vous dites que c'est un trou noir ce personnage, c'est un trou noir de quoi ? Avec quelle force il attire à lui ?
C'est un peu le côté obscur, quoi. C'est vraiment lui le miséreux pour le coup. C'est ce petit blanc, parents qui vivent dans la misère, à moitié marginaux. Il y en a pas mal dans la cambrousse. Et puis c'est ceux qui sont aussi les premiers fracassés par la crise. Ce gamin-là, il a aucune. Il a sa morale à lui.
D'ailleurs, il lui dit texto à un moment donné dans le livre, il dit « toi, t'as eu la bonne éducation, pas moi ».
Ouais, il a. Bah, c'est ces gamins, nous, qu'on a vus arriver. On n'est plus des gamins à l'âge de 15-16 ans quand ça nous arrive de plein fouet. C'est là où certains étés ont pris un goût parfois un peu différent. La drogue s'immisce. Je parle pas de la petite drogue. Hein. Je parle vraiment de la drogue qui arrive. Et nous, on n'est pas prêts. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est en train de tout salir. Des potes qui font des expériences, qui rencontrent d'autres gens de leur côté, donc qui partent vadrouiller pendant un été, on les voit pas, quand ils reviennent, ils sont changés. Ben, ils font leur expérience, faut les accepter. Mais moi, c'est vrai que j'avais toujours très peur. Vu que ces étés-là étaient vraiment ce que j'avais besoin aussi pour me construire moi en tant qu'individu. Ces moments, je parle aussi des petites vacances. Enfin,
donc si ça commençait à fiche le camp, du coup,
Voilà, on arrive déjà dans une période où c'est vraiment très difficile de savoir qui on est, moi, la période d'adolescence, c'est vraiment ce qu'habitent mes bouquins. Parce que c'est vraiment un territoire qui est sans fin pour raconter des belles histoires, des beaux personnages. Et Cédric, j'ai adoré régler mes comptes aussi. Et puis, il m'est très intime aussi, finalement.
Leur amitié, l'élément fondateur de leur communauté, c'est qu'ils sont dans une espèce d'égalité. Partagés, mais que pourtant ils ont cette langue qui leur est commune, et cette langue c'est aussi leur liberté. Il y a des saillies d'oralité dans le livre, même si je me suis vraiment défendue de ne pas parler ou de ne pas essayer d'écrire, j'allais dire la langue orale ado marseillais, parce que
Ça vous intéresse pas.
C'est pas le sujet. Il y a peut-être une imposture au bout de la route, quoi. Et moi, j'ai préféré rester dans ma langue, mais j'ai essayé de faire des saillies. Je pense que réellement, la langue très bousculée de l'adolescence et de la bande, c'est ce qui fonde leur communauté, leur égalité.
Leur égalité, c'est la voix de Maïlys de Kerangal, cette fois-ci dans une archive de 2008 au micro d'Arnaud Laporte, pardon, dans l'émission Tout arrive. Elle évoque évidemment ce roman qui s'appelle Corniche Kennedy, où tout un tas d'adolescents s'amusent à sauter des rochers. Ça se passe à Marseille, et il y a en effet une tension entre ce qu'on imagine être la langue des adolescents à cet endroit-là et puis la langue d'auteur de Maïlys de Kerangal. Alors vous, dans Rural Noir, Benoît Mainville, vous transformez la langue plutôt quand on est du côté des adultes, finalement. Ces adolescents-là, leur langage à proprement parler, on se le figure pas vraiment. Le moment où ça change, c'est le moment où vous faites apparaître plutôt le territoire et le fameux rural de votre titre, parce que c'est à la fois un roman sur l'amitié, mais c'est pas un roman sur l'amitié qui se passe n'importe où. Est-ce que vous diriez que dans la balance de l'écriture de ce texte, l'amitié pèse aussi fort que votre envie de parler de cet endroit-là?
Oui. C'était aussi une façon de montrer ces territoires dont on parle peu. On est plusieurs à avoir été nourris au country noir américain, auteur français, et à avoir grandi aussi dans ces territoires-là, à se dire bon, il y a des histoires à raconter. Le country noir américain, il englobe aussi bien le rural que le périphérique. Et nous, c'est tous ces territoires-là dont on a envie de parler. Auteurs qui ont à peu près ma génération.
Parce que vous avez vu qu'ils étaient des territoires de fiction chez les Américains.
Chez nous, parce que c'est les premiers territoires qui sont fracassés par la crise aussi, avec les banlieues. Mais les banlieues, il y a des gens qui le racontent très bien. Moi, j'avais envie de raconter ceux que j'ai vus. Comme je dis, dans Rural Noir, il n'y a même plus d'usine à fermer dans la Nièvre. Donc il y a ces ados qui sont là au milieu, qui voient leurs parents perdre leur job, essayer de faire autre chose. Et qui ont un horizon qui est pas forcément bien calibré déjà. Donc ce territoire-là, qu'il soit rural, périphérique, il nous permet en fait, il nous permet de fouiller le réel et de montrer les gens qui y habitent, tous les gens. Voilà, mon rôle c'est pas de les juger, mais j'ai envie de raconter ces gens-là, ceux qui refusent le progrès, la bêtise, ceux qui ne baissent pas la tête, ceux qui ont la rage en eux. C'est mon travail d'auteur quand j'écris une histoire, de raconter tous ces gens-là, de rien laisser cacher, et du coup de rendre hommage à cette Cambrousse qui est magnifique, mais qui en même temps a tellement changé, qui change entre le moment où ado, elle est verdoyante. C'est vrai qu'il y a cet effet de langue où ils ont leur façon de parler.
Puis ils sont à la rivière, il y a voilà, quelque chose qui est beaucoup plus solaire. Hein.
Voilà, c'est solaire.
Quand Romain revient, voilà. C'est très très gris.
Et je racontais par l'intermédiaire des scènes qui se passent au présent, bah, cette Cambrousse où, oui, elle est à la Toussaint dans la Nièvre, il fait nuit très tôt, il faut des bottes, c'est gris. Et c'est aussi cette réalité que nous on découvrait à d'autres vacances où bah, c'était beaucoup moins solaire. Et du coup, cette campagne devient un ballet de volets clos, de panneaux à vendre. Ça me fait vraiment mal en fait quand j'y vais, parce que moi j'ai le beau rôle, hein, j'ai ma maison de famille qui est là-bas, mais je me sens vraiment. J'ai énormément d'amis de tout âge là-bas, de toute profession, aussi bien des éleveurs que des gens qui font du travail social. Des gens qui bossent à la zone industrielle de Nevers, qui sont devenus taxis. C'est pas facile d'avancer à la Cambrousse en 2016 quand on parle jamais, quand BFM préfère braquer ses caméras sur autre chose et montrer d'autres choses à la télé. Et du coup, on monte la campagne à chaque fois qu'il y a un crime de sang. Voilà. Mais sinon, le reste du temps, pour ceux qui y vivent, y a aussi des territoires à raconter.
En même temps, à la fois vous la racontez vous racontez ces territoires, mais vous ne les épargnez pas non plus ces territoires. Non. Vous dites BFM ou la télévision braque ses caméras quand il y a un crime de sang, mais dans Rural Noir, il y a des crimes,
oui.
Il y a des morts, il y a de la drogue, il y a du FN qui plane.
Si on est chez Mitterrand, on est dans le territoire de Mitterrand, et il faut, moi quand je vois les scores du FN dans les dernières élections locales, bah, ça me fait mal. J'ai des copains qui pensent maintenant d'autres choses, qui ont changé. Je les aime, mais ça me bouffe de l'intérieur. J'ai envie de, face au désengagement du politique aussi, de dire mais faites gaffe, regardez comme ça gangrène partout. C'est tellement facile. Enfin, et oui, il y a les responsabilités de chacun. Il y a aussi la démission des institutions. Il y a aussi cette façon très difficile de faire vivre la campagne à l'heure actuelle. Je vois la Bourgogne va devenir Bourgogne-Franche-Comté. Au niveau de l'identité de ces gens-là qui vivent chez eux aussi, comment on accueille ça, les communautés de communes, quand on en fait prospérer une, y en a une autre qui prend cher de l'autre côté. C'est complexe. Mais moi, ce que j'avais envie, surtout, c'est de montrer que des gens au milieu de tout ça, la misère face à la misère fait que on n'a plus qu'à prendre un clavier pour raconter des histoires. La drogue. Quand j'y vais, moi, des fois, je vois certaines promenades que j'avais quand j'étais gamin, et quand on me raconte ce qui se passe de nos jours, c'est en train de se noircir assez violemment.
C'est-à-dire qu'il y a une grosse présence de consommation de drogue dans cette
ville-là. Il y a la drogue, et puis la bêtise qui rampe aussi, la haine qui rampe.
Tout à l'heure, vous disiez, c'est pas facile d'être fidèle en amitié. Il y a plein de moments où, dans Rural Noir, affleurent ces questions politiques sans qu'elles soient jamais exactement formulées, mais des chemins, en effet, idéologiques qui ont été pris en disant, en plus, qui pourraient faire s'éloigner les êtres. Est-ce que vous diriez que l'une des difficultés dans la fidélité en amitié, c'est que, justement, la vie fait qu'on fait peut-être des choix idéologiques différents?
Oui, ça c'est... C'est évident. Après, il y a l'amitié qu'on a vécue et qu'on ramène à chaque fois quand on voit quelqu'un, comme celle qu'on invoque. Donc celle-là, je pense qu'elle a moins de, c'est moins douloureux. Ce qui est plus douloureux, c'est quand on a grandi aussi avec quelqu'un et qu'on voit qu'il prend un chemin qui est pas le nôtre et qui correspond pas du tout à nos valeurs. On peut pas, de toute façon, retenir les gens. On peut discuter, mais j'ai pas vocation à essayer de faire changer un ami qui s'est mis dans la tête que de toute façon maintenant il voterait Front National par exemple. Je peux lui parler, Mais c'est plutôt plus haut que, et en lui qu'il y a les solutions. C'est, moi, je l'écoute. Je l'écoute, j'essaie de lui dire pourquoi il faut pas céder. Et des fois, c'est dur aussi soi-même. On vit dans une période, de toute façon, qui tire vers un espèce de trou noir auquel il faut se battre, contre lequel il faut se battre.
On est au bord de l'eau. Mon frère joue au foot avec JR et Lulu. Ils ont réussi à venir. C'est le week-end pour eux aussi de temps en temps. Moi, je regarde Vlad parler avec Julie. Je me sens bizarre. Elle rigole à ses blagues, pose sur lui des yeux brillants. À chaque fois qu'il en rajoute, on dirait qu'elle est face à un acteur de cinoche. Le regard part en dessous, ses cheveux ramenés dans son cou. Il ne voit pas ce que je vois, on dirait. Mon frère m'appelle, me raconte un truc rapporté par JR, une histoire de fille. Notre pote cavale pas mal et se prend pour l'autre dans Dirty Dancing. Je tourne la tête, ils ont disparu. Vlad et Julie. Je les cherche, les jambes soudain tendues. Ils sont sur le pont, ils marchent, un ciel sans nuages au-dessus d'eux. Ils prennent le chemin de la grotte d'Arfon. Alors je le fais, je les suis. Ça me ressemble pas, mais j'ai besoin de savoir. Je les suis, de loin, jusqu'à faire abstraction des rires de mon frère et des deux autres. Je remonte l'allée et les vois prendre le chemin près du canal. Je suis ridicule. Mais Vlad s'arrête, s'étire, et il parle trop près. On dirait que leurs mains se frôlent du bout des doigts. Ils sont cachés par un énorme hangar. Moi, je les ai en vue. Mes bras pèsent un chargement de plomb. Julie tire Vlad par la main. Il la regarde, passe ses doigts dans ses cheveux, amène son visage vers le sien et lui offre le plus beau baiser. Celui que je rêvais de donner à ma meilleure amie. Ils restent enlacés une éternité. J'ai le bide détruit, des fourmis dans les jambes. Vlad lui sort le grand jeu, les visages bougent légèrement, ils partagent l'instant quand ils s'éloignent leur bouche. Enfin, deux sourires radieux finissent d'anéantir mes rêves. C'est arrivé. Vlad et Julie sont ensemble. Ils sont ensemble. Je vais devoir apprendre à l'accepter, mais je refuse. Je sais pas si ça fait de moi un mauvais pote que de ne pas me réjouir du bonheur des autres, mais j'ai l'impression de vivre le pire des scénarios. Chanel avec ce titre Hey Baby qui fait suite, qui est une, voilà, un extrait de la bande originale Dirty Dancing qui était évoqué dans cet extrait de votre roman rural noir, Benoît Mainville. Évidemment, il y a une fille au milieu de tout ça, puis une femme au milieu de tout ça, puis même plusieurs femmes. La fameuse Julie dont on entendait dans cette scène, eh bien, qu'elle est jalousée par Romain. Quelle est la place des jeunes filles dans ce groupe et plus tard des femmes dans l'intrigue de votre roman ?
Centrale, parce que comme je vous ai dit, elle nous paraissait vachement plus mature déjà. Nous, on en était à des fois, enfin, on est les kékés, on les voit, elles grandissent d'un été sur l'autre, elles ont changé, elles sont devenues des femmes. Nous, on a hâte que ça se dépaie, que ça vienne aussi de devenir des grands garçons. Et puis, quand viennent les premiers amours, adolescents, bah, ils prennent une force tellurique tellement énorme, ça se coûte tous, et il y a les ruptures, et il y a aussi, du coup, quand on était quelqu'un comme moi d'assez anxieux aussi, d'espérer que tout se passe toujours bien, bah, quand ça peut fracasser certaines amitiés dans la bande aussi, parce qu'évidemment, bah, même si on est voué à tout cet ensemble tout le temps, une histoire qui finit mal entre deux potes, bah, ça peut ficher en l'air tout le basement, et du coup, bah, changer la donne. Et donc les filles étaient très présentes, avec vraiment différents profils, que ce soit la fille du coin et son accent, ou la parisienne qui débarquait chez ses grands-parents. On nourrissait ces moments, et c'est le déclic quand on passe de l'amitié à l'amour. Il est aussi assez effrayant, je trouve, à cette époque-là, à ces âges-là. Parce
d'ailleurs, il le dit, Romain, c'est le baiser que j'aurais voulu donner, ouais, à ma meilleure amie, sous-entendu cette fameuse Julie.
Et Julie, c'est le symbole de la fille, la copine, la muse, celle qui est au cœur de tous, et qui, finalement, va choisir les bras de celui dont on s'attendait pas du tout, au début du bouquin, quand on les voit ados. Parce que les relations changent aussi, et les gens changent. Et moi, c'est vrai qu'on a vu des fois, on avait l'impression d'être dans des saisons de Santa Barbara, quand on revenait l'été, qui avait, mais attends, je comprends pas, lui, il était pas avec elle et tout l'année dernière, et puis pourquoi ils partent ensemble là-bas? Mais non, c'est pas possible. On a Closer, c'était du menu fretin à côté de ce qu'on vivait. Il y avait vraiment, c'est toutes ces après-midi qui alimentaient les barbecues le soir, avec l'expérience aussi, les garçons entre eux qui avaient tendance à enjoliver, ceux qui avaient pas encore goûté à tout ça, donc qui étaient un peu comme racontez-moi qu'est-ce qui se passe et tout, et puis puis après, quand elles deviennent femmes, et puis maintenant, même s'il y en a beaucoup que je vois plus du tout, moins, ben, grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu voir, elles sont devenues des femmes, des mamans, voilà, c'est...
Vous dites que la place des femmes est centrale, et elle l'est. On essaye évidemment, puisque c'est un roman noir, de pas trop dévoiler le nœud et la violence qui fait que tout ça bascule et prend des pentes, comme dit Romain, glissantes. Il dit un été où tout glisse. Mais n'empêche, la place des femmes continue d'être centrale, puisque c'est une violence, plusieurs violences faites aux femmes, qui fait tout dérailler, en plus de la drogue qu'on a déjà évoquée. Ça aussi, ça devient finalement très central dans le roman, la violence faite aux femmes et les limites qui sont dépassés. Pourquoi ?
Il y avait tout le problème aussi de côté de l'émancipation, en fait. Nous, ados, garçons, ma mère, elle nous bridait pas. On sortait jamais à Paris, mais quand on arrivait, on était complètement lâchés dans la nature. On faisait ce qu'on voulait. En revanche, la première violence, je peux me dire, c'est celle de certains pères, en fait, qui voyaient leurs filles venir passer des après-midi, et puis des fois, bah, on allait camper et tout, bah, Fleury, ce genre de choses. Et maintenant que je suis père, c'est vrai que, bah, je vois pas les choses de la même façon. Mais du coup, il y avait ça, il y a ce rapport, déjà, les filles avaient à affronter déjà quelque chose que nous, garçons, on n'avait pas du tout à affronter. Nous, on avait le beau rôle, on faisait ce qu'on voulait totalement, on n'avait pas les regards. Nous, quand on paradait avec notre copine dans le village à la main, c'est les oreilles des parents de la fille qui sifflaient, pas les nôtres. Et à l'âge adulte, même à l'adolescence aussi, je pense qu'il y a certaines violences qu'on n'a pas vues. Le personnage marginal dont je parle, il a existé. Enfin, il y a des choses comme ça qu'on n'a pas vues, des regards, des choses pas très propres du fait de certains coins reculés aussi, quand bah, des gens vivent seuls aussi. Et ça, j'ai appris à le voir qu'après, en fait, aussi, par l'expérience. Et puis, il y a la violence des hommes, oui, la violence faite aux femmes à l'âge adulte. Les femmes Julie, c'est quand même un personnage que j'ai voulu central, parce que c'est un personnage central. C'est elle qui tient le gang, aussi bien au niveau affectif que la maturité. Mais il y a d'autres personnages, comme le personnage de Laure, qui est une fille de...
Même de Mélodie.
Et Mélodie, oui. Le personnage de Mélodie. C'est le personnage de Mélodie, ça a été assez... assez dur aussi à incarner, parce que il y en a beaucoup dans les cambrousses des gens comme ça, et qui, après avoir subi la violence des parents, on n'aimerait pas qu'elle subisse la violence des maris. Et en même temps, elle est forte aussi, parce que c'est elle qui réussit à canaliser Vlad, en fait. Donc du coup, elles ont ce rôle central.
À travers la plus grande partie de mon travail, je réfléchis à des récits que je veux raconter. Et je m'assieds, je les écris, et quand j'ai terminé, alors je peux mettre de côté ce travail pendant un certain temps, et puis y revenir et dire « Pourquoi ai-je donc fait ça ? Pourquoi ai-je écrit ça en premier lieu ? » Et puis on voit quelle est la partie qui me concerne particulièrement, quelles sont mes terreurs. Par exemple, sous le dôme, je me suis dit
This is our world, really.
C'est notre monde. Je peux prendre cette petite ville, Chester's Mill, et je peux la placer sous un dôme, sous cloche. Et véritablement, voilà, nous vivons tous sous cette cloche. Nous vivons tous sur cette petite planète bleue. On n'a nulle part où aller. On a des ressources limitées. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et ils doivent régler leurs problèmes. Donc toutes ces choses-là, quand je regarde ce livre à nouveau, je me dis, ben voilà, c'est ça dont je veux que les gens aient peur dans ce livre précis. Parce que c'est de ça que j'ai peur, moi.
C'est de ça que j'ai peur, moi, dit Stephen King au micro de Patrick Cohen. On est sur France Inter le 13 novembre 2013. France Inter qui avait consacré une journée entière à Stephen King. Il se trouve que il me semble que c'est le seul auteur qui est cité dans Rural Noir, parce qu'en tout cas, c'est l'auteur qui est lu sous les arbres pendant l'été et qui est d'ailleurs vu comme un échappatoire à un moment donné. Il dit, j'ai même pas le goût d'aller lire Stephen King. Il se trouve que vous êtes aussi libraire, Benoît Mainville. Est-ce que l'amitié dans les autres romans noirs, dans la littérature de manière générale, et un endroit où vous avez été puisé?
Ah oui, oui, vraiment. Ce roman, Rural Noir, c'est vraiment un hommage à toute cette littérature, aussi bien américaine que française. Il y a deux romans comme ça qui m'ont marqué à vie. Enfin, il y a Stephen King. Là, je suis vraiment touché de l'extrait. Lui, c'est vraiment avec ça, de Stephen King, La ville de Derby, et puis la nouvelle Le corps, dans le livre Différentes saisons qu'a donné le film Stand By Me. C'est vraiment fondateur de moi, de mon imaginaire. Et du coup, en lisant Stephen King, je lisais pas que le côté, moi, effrayant. J'avais vraiment le côté intime. J'avais l'impression qu'il me parlait à moi, que ce livre, il l'avait écrit pour moi. Et ce côté, cette espèce de fluide qu'on se transmet entre lecteur, auteur, libraire, c'est un passeur de mots. Donc du coup, moi, je rends hommage aussi, moi, dans mon métier tous les jours. Par exemple, il y a Bernard Clavel qui a écrit Mala Taverne, qui est un livre qui m'a absolument bouleversé. C'est un livre sur une amitié qui dévie aussi, sur le cap, pas cap, et puis après la petite délinquance, ce qu'elle devient quand ça devient grave. J'ai une bibliothèque entière chez moi dédiée à la littérature d'apprentissage, le roman initiatique, j'adore ça.
Que vous réunissez comme ça?
Ouais, pareil en DVD. J'ai Mud à côté de Stand By Me, à côté d'Outsiders, à côté de Breakfast Club. J'en suis pas encore sorti, parce que c'est pas de la nostalgie, c'est pas de la mélancolie. Je me complais pas là-dedans. C'est juste que c'est pour moi un élément tellement intéressant en termes d'imaginaire, en termes de dramaturgie, que Il y a énormément de choses à raconter.
Parce que vous disiez tout à l'heure que c'est justement, pour reprendre les mots de Franck Venaille, cette période où tout est possible. Voilà. Parce que c'est ouvert, que du coup c'est aussi un terrain de fiction qui est infini.
C'est un terrain de fiction. J'écris aussi chez Sarbacane, en fait, dans la collection Exprime, des romans ados, pour ados et grands ados. Moi j'écris des romans, et après on les met sur table. Mais c'est des histoires aussi d'adolescents, de jeunes adultes. Et... c'est un âge où c'est extrême, en fait. Tout est extrême. Et, bah, moi, j'ai eu besoin, en fait, du côté extrême pour me construire aussi. J'ai le corps couvert de tatouages, j'écoute de la musique extrême. Quand j'ai voulu faire de la librairie, je l'ai fait tout de suite et je fais que ça. C'est mon boulot depuis que j'ai arrêté les études très tôt. Je pense que l'adolescence, c'est cette période nécessaire à vivre et à expérimenter. Ce qui maintenant, moi, en tant que père, me terrorise quand j'aurai mes filles qui deviendront adolescentes, évidemment. Vu que ça, c'est
le côté. Et alors, comment vous décririez les amitiés adultes? Parce qu'on a commencé par essayer de donner une définition des amitiés et des amitiés qui se créent dans l'âge adulte, qui naissent.
Mais j'ai eu la chance de créer, de souder une amitié très forte avec deux auteurs, Nicolas Mathieu et Marion Brunet. Elles sont nées grâce au livre, mais elles se développent ailleurs. Elles sont évidentes, en fait.
Elles sont plus apaisées?
Non, on fait autant les imbéciles, on raconte autant de bêtises, c'est autant un échappatoire à pousser l'autre, à creuser dans l'autre, à essayer de se chercher dans l'autre. Donc non, je suis on est ma génération un peu adolescent. On prend les responsabilités, mais c'est vrai que jamais je me serais vu adulte, moi, ado. Et du coup, les amitiés que je tisse maintenant, elles ont quand même encore un goût de cette adolescence perdue.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
14h52 sur France Culture. Chaque jour à cette heure-ci, nos discussions se suspendent pour faire entendre des déclics, des moments de bascule dans les parcours. Et ces moments, Olivier Cadio, un autre auteur, les a rapprochés de la découverte de plusieurs objets techniques. Hier, il nous parlait de la presse. Aujourd'hui, il nous parle du cutter.
Le cutter, c'est venu tout simplement un jour où j'ai ouvert, après une dizaine d'années d'assez mauvais poèmes. Enfin, j'étais un poète un peu emprunté, comme j'empruntais peut-être aux autres et j'ai peut-être moi-même un peu emprunté, je ne sais pas. Et un jour, j'ai ouvert une grammaire, j'ai vu un texte, j'ai vu un morceau de texte, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, curieusement. Au lieu de le recopier, au lieu de l'écrire à la main ou de le taper à la machine, il me le fallait tel quel. Il était parfait comme il était. Les lignes étaient parfaites, la typographie était merveilleuse, il y avait un italique bien placé et ça m'a fait pleurer. Donc il me fallait un cutter. Voilà, alors après, à partir de ce moment-là, j'ai fait plusieurs années un livre qui s'est appelé L'Art Poétique en 88, mais j'ai passé quand même 5 ou 6 ans à découper des grammaires, essentiellement des grammaires. J'ai découpé particulièrement des grammaires qu'aurait pu lire Rimbaud en classe, en me disant peut-être c'est pas mal, c'est toujours bon, quoi. Donc, j'ai découvert des grammaires. Donc, du coup, j'avais un atelier, ça m'a obligé à avoir de l'espace. J'avais un atelier que je partageais avec Pascal Dussapin, toute une bande de camarades. C'était un ancien atelier de mécanique. Il y avait des grandes tables. Donc, ce qui fait que je pouvais transporter, j'avais des tables roulantes. Et je découpais mes petits bouts de papier, je les transportais. J'avais un problème très, très compliqué de poussière, de scotch. Enfin bon, ça je... Mais restons sur le cutter, qui est l'instrument rêvé. J'ai tout essayé. J'ai essayé les trucs de graphiste, les cutters ronds, les X-Acto, tout ça. J'ai eu même un moment, que j'avais acheté aux États-Unis, un petit cutter stylo. Ce qui permet, vous allez à la BN discrètement, vous voyez, vous appuyez, clac, et à la place de la mine, vous avez un petit cutter. Vous pouvez découper le montagne original, mine de rien. Ça, c'est quand même pratique, mais j'ai abandonné aussi parce que ça ne faisait pas des... Si vous voulez, comme le découpage, comme je le pratiquais, c'était de découper une strophe d'un coup. Donc il faut des angles, il faut que ça soit carré, si vous voulez. Alors je prenais ces bouts de choses, et j'avais donc des cutters en grand nombre. Et c'est resté je suis devenu vraiment un expert du découpage. Ça, évidemment, c'est un drôle de travail, parce que ça vous oblige à lire comme un myope. C'est-à-dire, au lieu, vous prenez le journal et vous collez vraiment votre œil au milieu de la page, et vous rapprochez la page très près, pouvoir voir à l'intérieur, éventuellement en louchant, voir les mots qui sont cachés. à l'intérieur et les extraire. Finalement, c'était, le cutter, c'était un petit peu comme un instrument de... Un peu comme le pinceau des gens qui font des fouilles. Vous savez, il y a des petits os dans le désert, et puis vous êtes là à épousseter, à terre à enlever. Le cutter, c'est juste pour... C'est pas le cutter, le grand cutter de William Burroughs, ou des surréalistes, où on coupe d'un grand coup de ciseau, et on rassemble des choses sur la même table. C'était plutôt un travail délicat, consistant à extraire, à aller chercher des petits trésors cachés dans les endroits où ils ne devaient pas y être, c'est-à-dire, a priori, je parle à la grammaire, Libération, ou une encyclopédie absurde, où il y avait des poèmes cachés. It's a feeling like a born again teen, got a heartbeat like we're on the 16.
Born Again Teen par Lucius, choisi par Somanina pour terminer l'heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Benoît Mainville. Rural Noir, c'est le titre de votre roman paru à la Série Noire aux éditions Gallimard. On pourra vous rencontrer ou bien en allant acheter des livres à la Fnac de la Défense, ou bien en allant au festival Quai du Polar, c'est à Lyon, 1er, 2, 3 avril. Et c'est en plus un partenariat. France Culture, merci beaucoup.
Grand merci à vous. Merci beaucoup.
Les nouvelles vagues sont terminées pour aujourd'hui. On peut les réécouter sur franceculture.fr. Vous pouvez trouver toutes les émissions, la programmation musicale, les archives et l'abonnement au podcast pour avoir l'émission dans vos machines directement. On peut se parler aussi via franceculture.fr ainsi que Twitter et Facebook. Merci beaucoup pour vos messages et pardon pour le retard. Parfois nous sommes un peu longs à répondre. Merci à Romain de Bec de Lièvre, Inès Duperron, Alice Ramon et Marie Aubert qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée par Somanina avec aux manettes aujourd'hui Emmanuel Morse d'Incan et au droit d'auteur Elisabeth Gornet. Dans un instant, on retrouve Mathieu Garrigou-Lagrange avec l'émission littéraire La Compagnie des auteurs.